Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 18h à Dire et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les titres: vers une levée probable des sanctions contre le Mali après 4 mois d'embargo. Le représentant de l'Europe auprès du ministère des Affaires étrangères affirme que le dialogue se poursuit entre le Mali et la CEDEAO. Les groupes terroristes règnent toujours dans certaines localités du centre et du nord. Des sources locales signalent qu'ils soumettent les populations à l'application de la charia. La coupure intempestive de l'électricité est aussi une réalité à Kenyeba, dans la région des Kayes. Certains quartiers de la ville peuvent faire plusieurs jours sans le courant. La population dénonce l'incapacité du fournisseur local d'électricité. Je suis Arkia Touré, nous me direz assure la mise en onde. Bonsoir et bienvenue. Les pourparlers entre le Mali et la CEDEAO se poursuivent. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le directeur Europe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sekoudi Gaoussou Cissé. C'était en début de semaine lors de la célébration de la journée de l'Europe au Mali. Selon les diplomates, on tend vers une levée des sanctions. Adama Amadou Haïdara pour plus de détails.
Sekoudi Gaoussou Cissé se montre optimiste quant à la levée prochaine des sanctions de la CEDEAO prises contre le Mali il y a plus de 4 mois. Selon le diplomate malien, les autorités de la transition et la CEDEAO sont en passe de trouver un accord sur la prorogation du délai de la transition. Comme on le dit en diplomatie, on n'est pas très loin de l'accord. Dans les prochains jours, les autorités compétentes vont pouvoir se prononcer sur cette question, a-t-il dit. Il annonce un compromis qui, selon lui, pourrait aboutir à une feuille de route acceptable au terme de laquelle seront organisées des élections crédibles, transparentes et apaisées. Cette déclaration sur un possible accord entre le Mali et la CEDEAO a été faite quelques jours après la visite d'une délégation malienne au Togo. Celle-ci a demandé au président togolais Fornia Simbé de soutenir l'effort de dialogue du gouvernement malien avec l'ensemble de la communauté internationale. Des partis politiques ont salué le choix porté sur le chef de l'État togolais qui, espère-t-il, va permettre un retour à l'ordre constitutionnel.
Pendant ces temps, l'initiative Sauvons le Mali d'Okera a manifesté hier mardi à la place de l'indépendance de Bamako. Selon les organisateurs, les autorités de la transition doivent poser les jalons pour la levée des sanctions et le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Mamedi Dramé, membre de l'initiative Sauvons le Mali d'Okera, joint par Adama Amadou Haïdara.
Les autorités sont obligées, en tout cas, de trouver très rapidement une solution à cette situation. Nous, on est sortis. Certes, nous, on a été ceux qui ont voulu battre le pavé, mais il y a beaucoup de Maliens qui souffrent dans le silence absolu. Si ils accélèrent, c'est notre souhait. Parce que nous avons dit la levée rapide de l'embargo. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que ça se fasse le plus rapidement possible. Qu'il y ait un chronogramme de 2 ans, un chronogramme de 5 ans, et qu'on ait un chronogramme consensuel avec ce qu'on appelle les pays, la CEDEAO, pour qu'on puisse se fixer un cap. Tout est dans la fixation d'un cap, dans l'orientation. Où est-ce qu'on va? Nous espérons toujours que ça va aller, puisque ça ne peut même pas continuer.
Alors, réagissez à ces informations en faisant un tour sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le délibéré du procès d'Etienne Fakaba Sissogo qui devait avoir lieu ce mercredi 11 mai a été renvoyé au 1er juin 2022. Cette décision a été prise ce matin par le tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. L'économiste chercheur avait été interpellé et placé sous mandat de dépôt le 18 janvier 2022, puis mis en liberté provisoire le 22 mars 2022. Il est poursuivi pour des propos tendant à la stigmatisation ou à la discrimination religieuse. Et parlons à présent de l'insécurité, les invasions et les prêches des groupes armés terroristes sont de plus en plus fréquentes dans certaines localités du centre et du nord du Mali. Selon des sources locales, les groupes terroristes règnent en maître absolu et contraignent des populations dans la région du Tombouctou à s'y plier à leur volonté. Les détails avec Fatia Tara.
À Bani Bangou et dans un cercle de Dire, des séances de prêches sont sont fréquemment organisées par des hommes en armes, nous indiquent des sources jointes sur place. Les femmes sont contraintes de porter les voiles noires et les jeunes sont interdits de jouer au ballon, de porter les coiffures modernes et d'écouter de la musique. Même situation à Douakiré et Nyamburgu, des localités toutes situées dans les cercles de Goundam, région de Tombouctou. Des sources locales signalent des visites récurrentes et improvisées des présumés djihadistes. Ces derniers instruisent l'application stricte de la charia dans ces localités. À Sarafiri, un village situé à quelques encablures de Niafenke, des présumés djihadistes n'ont pas hésité à molester des femmes ayant refusé de porter le voile. Dans la localité de Djenné, plus de 1900 ruminants ont été enlevés dans certains villages il y a quelques jours par des hommes armés. Une situation qui fait planer de graves problèmes d'insécurité alimentaire sur la localité s'alarme des autorités locales.
L'armée malienne détient l'initiative sur le terrain. Elle traque les terroristes dans leurs derniers retranchements. Cette déclaration a été faite par le ministre de la Défense et des anciens combattants ce mardi 10 mai sur l'ORTM, la chaîne nationale. Le colonel Sadio Camara indique, je cite, « qu'aucune manipulation de l'information ne nous fera douter de la justesse de notre combat ». Fin de citation. Écoutons le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants.
Vous savez, comme on le dit généralement, la sécurité n'a pas de prix. Chaque fois que nous faisons la réception de nos matériels, nous tenons à éclairer la lanterne des Maliens et des Maliennes. C'est un processus qui est en cours. Nous avons reçu un premier lot, un deuxième lot. Nous attendons des réceptions de tous les lots pour ensuite communiquer sur le prix. La présence des instructeurs et des conseillers russes au Mali ne date pas de maintenant. Depuis les années 1960, avec la Première République, l'Union soviétique a envoyé des centaines d'instructeurs et de conseillers russes pour aider le Mali à mieux organiser son armée et son administration. Les Russes qui sont ici au Mali ne participent pas au combat, contrairement à tout ce qui s'est dit à travers les médias. La France a décidé de façon unilatérale du retrait des forces Barkhane et Takuba. Donc il appartient à la France de faire le bilan de son opération.
Voilà, c'était là les explications du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Sur un autre sujet, à Kinyeba, la coupure d'électricité devient de plus en plus récurrente. Certains quartiers de la ville peuvent faire 48 heures ou 72 heures dans l'obscurité. La situation impacte beaucoup d'activités dans la localité. La population dénonce l'incapacité de la KAMA-SA. Il s'agit de la société qui fournit de l'électricité dans la ville. Notre envoyé spécial Omar Waigalo à Kinyeba s'est intéressé à la question.
L'électricité est fournie d'une façon temporaire. Pendant la journée, c'est entre 10h et 14h et la nuit, le courant n'est disponible qu'entre 19h et 2h du matin. Malgré cette fourniture temporaire, certains quartiers de la ville peuvent faire plusieurs jours sans électricité. Une situation qui empêche certaines personnes d'exercer leur travail, notamment les tailleurs. Sadio Keita, chef d'un atelier de couture.
S'il y a des coupures d'électricité, nous sommes obligés d'arrêter le travail parce que nous n'avons pas de groupe électrogène. Souvent, les clients se fâchent contre nous parce que leurs habits ne sont pas cousus. Notre souhait est de coudre tous les habits qu'on nous donne et remettre aux propriétaires.
Cette situation touche également les vendeurs de jus, des gingembre, des crèmes et les propriétaires des boutiques d'alimentation. Pour ces derniers, ces coupures intempestives constituent un manque à gagner.
Avec cette coupure d'électricité, toutes nos activités sont au ralenti. Nos réfrigérateurs ne peuvent plus produire des glaces.
Cette coupure nous fait subir beaucoup de pertes. Des fois, tous les aliments que nous mettons dans les congélateurs se décomposent.
Toutes nos tentatives pour faire réagir les responsables de la KAMA-SA, la société qui fournit de l'électricité dans la ville, ont été vaines. Omar Waigalo, depuis Kinyeba pour Studio Tamani.
Il est 18h passé de 9 minutes. Parlons maintenant des vidéomans. Il s'agit de ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux. Ils s'expriment sur l'actualité ou critiquent des pratiques dans le pays. Le phénomène prend de l'ampleur depuis un certain temps au Mali. Que pensent les populations de Bamako de ces phénomènes? Quelles peuvent être les conséquences? Élément de réponse dans ce reportage de Issa Koulibaly qui est en stage d'immersion à Studio Tamani.
Dans les rues de Bamako, les videomans sont diversement appréciés. Pour certains, ils contribuent à informer les citoyens. D'autres, en revanche, pensent qu'ils font des partis pris et suscitent souvent la haine dans la société.
C'est une bonne initiative. Néanmoins, ils doivent voir les débats et les sujets. Sinon, pour informer les gens, ça, c'est pas un problème.
Quand tu te comportes comme un journaliste parce que tu as un téléphone, tu peux dire tout ce que tu veux, critiquer des gens que tu veux, ou bien on te paye pour critiquer des gens, que vraiment, c'est pas bon.
Quand on voit quelque chose seulement, on se lance là-dedans, sans savoir comment mettre les pieds.
Selon Foudié Tandjougoura, sociologue, cette pratique résulte du développement de la technologie. Il affirme que le phénomène, s'il n'est pas contrôlé, a des conséquences sur la société.
C'est l'inconvénient du développement technologique qui doit être maîtrisé par nos pouvoirs publics. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Même si une loi existe dans ce domaine, sa conséquence, c'est la dislocation de la réputation de beaucoup de gens qui souvent payent des vidéomans pour produire des contenus sulfureux sur un candidat, sur un rival. Aujourd'hui, on ne peut même pas savoir ce qui est vrai et ce qui est faux.
En attendant l'adoption d'une loi, la pratique continue malgré les dénonciations de certains citoyens. Il faut signaler que certains de ces vidéomans échappent à la justice puisqu'ils sont hors du pays.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Les brèves de Tamani nous amènent à Nsongo, où deux jeunes bergers ont été kidnappés puis tués le 8 mai dernier à 10 km d'Nsongo. Des témoins indiquent qu'ils revenaient de la foire d'Nsongo quand ils ont été pris par des hommes armés non identifiés. Leurs corps ont été retrouvés le même jour. Ils ont été enterrés par leurs proches. Les enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs de ces crimes. Avant de refermer ce journal, sachez que le débat de ce soir porte sur la migration. Quel défi et opportunité dans la région des Cailles. C'est une présentation de Mariam Meiga. Le contenu de ce journal est disponible sur notre site web www.studiotamani.org ou via mon au 37 321. Merci pour votre écoute. Je suis Arkia Touré et nous me direz assurer la mise en onde. Bonsoir. Sur les routes migratoires, les migrants sont confrontés à d'énormes difficultés, qu'ils soient en transit, ou de retour. Ces personnes ont parfois besoin d'assistance et de protection. Le projet d'appui à la protection des migrants vulnérables sur les routes migratoires au Sahel, PROMISA, vise à assurer cette assistance et cette protection pour les migrants les plus vulnérables au Sahel. Le PROMISA vient en aide aux migrants, quels qu'ils soient, je l'avais annoncé, je crois. Mais ceux-ci doivent répondre à des critères de vulnérabilité pour bénéficier de l'assistance. Ce magazine est réalisé à Tombouctou, Caye et Sang dans le cadre du PROMISA.
Le projet d'appui à la protection des migrants vulnérables au Sahel est mis en œuvre à Tombouctou, Caye et Sang. Dans cette dernière région, le PROMISA est exécuté par la coordination diocésaine de Caritas Sang. Ville Carrefour, la situation géographique de Sang fait d'elle une plaque tournante de la migration, nous dit Para Yves Koné, chargé de projet à Caritas Sang.
Les migrants que nous accueillons ici, la plupart viennent des pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria et le Ghana, en traversant le Burkina, et pour remonter vers Bamako en passant bien sûr par Sang.
À Caye, autre région de migration par excellence, le PROMISA vient en aide aux migrants vulnérables. Assistante au PROMISA à Caritas Caye, Delphine Meiga nous explique comment se fait l'assistance aux migrants.
Une équipe de 9 personnes, on appelle personnes ressources communautaires. Et ils partent sur le terrain dans nos différents points de partage d'informations pour la recherche des migrants. Et après, ils orientent ces migrants-là vers moi pour l'enregistrement. Et l'enregistrement se fait avec nos critères de vulnérabilité. Si le migrant correspond à 2 de ces critères de vulnérabilité, il peut bénéficier de notre assistance à travers les vouchers coupons, soit à travers l'hébergement.
À Tombouctou, le PROMISA est mis en œuvre par le Catholic Relief Service, en abrégé CRS Mali. Celui-ci travaille avec plusieurs autres acteurs, notamment la Croix-Rouge. El Hadj Amadou Touré est le responsable du projet Assistance et protection des migrants à la Croix-Rouge de Tombouctou. Il nous parle des types d'assistance fournies aux migrants.
Nous en avons 5 de façon directe. Et ces assistances sont une assistance en NFA, en kit hygiène et vêtements. Nous avons l'assistance médicale aussi, Nous avons l'assistance alimentaire à travers des repas chauds. Nous avons le PSS, la présence psychosociale et le rétablissement des liens familiaux.
Dans la cité des 333 saints, un groupe de travail a été créé pour une meilleure coordination des actions. Plus d'une dizaine d'acteurs locaux et internationaux y participent en bonne intelligence. Hasseidi Wangara, chef du bureau OIM à Tombouctou.
Nous avons des réunions auxquelles participent tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la migration. C'est une réunion très vivante dans laquelle nous discutons des activités, nous coordonnons, nous essayons d'instaurer une forme de complémentarité afin que tous les besoins soient couverts en fonction des possibilités de chaque acteur sur le terrain.
Les acteurs locaux saluent l'initiative du Promisa qui est venu leur enlever une épine du pied. Sékou Tawati, premier vice-président du bureau local du Haut Conseil islamique du Sang.
À Sang, le phénomène est grandissant. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Quand ils arrivent, ils vont dans les mosquées ou chez l'imam. À chaque fois que le problème se présente, nous intervenons. Si nous n'arrivons pas à subvenir aux besoins de l'intéressé, on fait appel à Caritas. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, Caritas est arrivé à trouver la solution avec nous.
Ce magazine a été réalisé par Studio Tamani en partenariat avec Caritas et la Croix-Rouge dans le cadre du projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires du Sahel Promisa, financé par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique.